Welcome to LeBigUSA.com.
Salut à tous, bienvenue sur LeBigUSA.com. Vous écoutez le podcast numéro 121. Aujourd'hui, j'ai un invité un peu spécial, un peu original. J'ai monsieur Jean Laversanne avec moi, médecin urgentiste. Comment ça va, Jean ?
Ben, ça va bien, merci.
Je vais vous laisser vous présenter quand même.
Oui, bah donc, comme vous l'avez dit, je suis médecin urgentiste, mais j'ai une passion, c'est la moto tout terrain, surtout de l'enduro, un tout petit peu de cross, mais j'ai fait beaucoup d'enduro et de par mon métier de médecin urgentiste, inutile de vous dire que j'ai été maintes fois sollicité pour faire des couvertures médicales de plusieurs compétitions jusqu'à un niveau international, puisque j'étais le responsable de la couverture médicale des ISDE, donc International Six Days of Enduro à Brive-la-Gaillarde en 2001, nombreuses couvertures médicales des MX Oxbow à Régade aussi. Bon, c'est il y a quelques années, hein, là maintenant j'ai pris de la bouteille, je roule plus en enduro, je me suis mis au VTT. Voilà, on prend moins de risques avec l'âge qui devient important. Voilà, donc bien sûr, beaucoup de couvertures médicales de cross. Après le Limousin, ben, je suis parti en Guyane et là aussi, c'était pas mal de couvertures médicales d'épreuves de cross, donc au niveau régional et local. Voilà.
Alors moi, je me suis fait avoir avec le VTT, Jean, hein, parce que moi, j'ai arrêté la moto pour faire du VTT et je suis jamais autant tombé en VTT qu'en moto. Il y a un problème là.
Ben, c'est vrai que des fois, on en prend des bonnes aussi en VTT. Mais enfin, voilà. Bon, donc, alors, le VTT est un peu moins lourd à relever que la moto. Donc,
voilà, exactement. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une chose toute simple, parce que beaucoup de gens se posent la question, et encore une fois, on n'est pas spécialiste. Je suis pas médecin, je suis pas docteur, je suis pas chirurgien. Mais il se passe des choses sur le championnat de Supercross avec des grosses chutes et des protocoles qu'on comprend toujours pas très bien comparé à la France. Donc Avant de lancer le sujet sur ce qui se passe aux États-Unis, j'aimerais savoir, vu que vous avez été sur plein de courses, à partir du moment où vous avez un pilote qui est à terre, c'est quoi le protocole et est-ce que le protocole français et européen est différent des autres pays ?
Alors, nous, la Fédération française exige qu'à tout départ de course, il y ait toujours un médecin et une ambulance, en général ces ambulances privées, sur le terrain, avec les secouristes susceptibles de pouvoir intervenir en tout point, assez rapidement en tout point du circuit, dès que les commissaires signalent une chute et le fait que le coureur ne se relève pas de lui-même. Et dans ce cas, donc, le service médical de secours est déclenché pour intervenir et se rendre sur place auprès du pilote qui a chuté. Voilà, donc ça, c'est la règle ici. En enduro, c'est un peu plus compliqué puisque dans ce cas, on est souvent en moto pour pouvoir, on est donc les médecins en moto pratiquant l'enduro avec un sac à dos médicalisé qui permet de pouvoir se rendre et c'est souvent justement à l'endroit vu que le circuit est beaucoup plus long que sur un cross où là on n'a pas besoin d'intervenir en moto. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe pour être bref. Après, sur la prise en charge, ben, c'est quand le premier abord d'une victime, que ce soit sur un accident de la route, que ce soit sur un... Là, c'est de se rendre compte, est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle a eu une perte de connaissance? Est-ce qu'elle elle peut bouger ses quatre membres? Est-ce qu'elle a des douleurs quelque part? Évidemment que la personne, si elle est inconsciente et qu'elle ne peut pas répondre à ces questions élémentaires, laisse supposer d'abord un trauma crânien important, voire des lésions au niveau de la colonne vertébrale plus importantes qui peuvent entraîner, donc dans ce cas, le fait qu'il ne puisse pas bouger soit les quatre membres, soit certains des quatre membres, selon la hauteur de la lésion neurologique qui a pu survenir lors de l'accident. Voilà, donc là-dessus, effectivement, ce qu'il y a par rapport aux États-Unis, je parle là dans la prise en charge des victimes et dans le monde anglo-saxon, c'est que vous savez, nous, on a mis en place depuis de nombreuses années le SAMU et les SMUR. Hein. Les SMUR, c'est donc le SAMU, c'est un central d'appel qui régule les appels. Le SMUR, c'est donc une équipe d'urgentistes avec infirmiers, souvent infirmiers anesthésistes et ambulanciers qui vont se rendre auprès de la victime sur les lieux mêmes de l'accident pour commencer une médicalisation qui va permettre justement déjà de calmer la douleur, de pouvoir faire les premiers gestes pour maintenir les fonctions vitales correctes. S'il y a un traumatisme viscéral, par exemple, un coup de guidon dans le foie ou dans la rate qui fait un saignement, une hémorragie hémorragique interne. Il est donc important de maintenir les fonctions vitales dans ces conditions-là pour pouvoir l'acheminer dans les meilleures conditions possibles et surtout éviter les souffrances jusqu'à l'hôpital.
D'accord.
Donc, la différence aux États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas ce système de SMUR, donc d'équipe d'urgentistes réanimateurs. Hein, c'est pour ça, le SMUR, c'est service mobile d'urgence et de réanimation. C'est donc un urgentiste réanimateur qui est à bord du véhicule qui va se rendre sur les lieux de la victime de l'accident pour médicaliser, faire des soins médicaux tels qu'ils seraient faits à l'hôpital. C'est l'hôpital qui se déplace auprès de la victime. Aux États-Unis, ils font plutôt du scoop and run, c'est-à-dire qu'en fait, ils font du ramassage et ils foncent le plus vite possible au trauma center le plus proche. C'est une autre technique de prise en charge et ils ont développé pour ça des paramédics, ce qu'ils appellent des paramédics, c'est-à-dire des infirmiers hyper qualifiés en prise en charge des urgences. Mais ça n'est pas des médecins. Voilà un petit peu dressé, sans entrer trop dans des détails techniques et des qualifications, la différence. Hein. Donc, nous, on prend notre temps sur les lieux pour bien stabiliser la victime, la conditionner, la mettre, ce qu'on appelle la conditionner, c'est-à-dire la mettre en sécurité, être sûr que tout se passe bien, puisque tout transport, toute mobilisation d'une victime est extrêmement dangereux et délétère, hein, nuisible pour la victime, peut être nuisible pour la victime. Donc, c'est pour ça qu'on prend nos précautions, qu'on prend le temps et que même en roulant, vous voyez quelquefois quand l'ambulance des pompiers est par exemple accompagnée par un véhicule du SMUR, donc du SAMU, vous voyez que quelquefois, eh ben, si on ne roule pas vite, c'est parce que c'est souvent beaucoup plus grave et que justement les décélérations, les virages et tout ça sont très dangereux dans le cadre de la dégradation des fonctions vitales de la victime. Voilà, donc c'est l'inverse un petit peu aux États-Unis où eux, ils vont faire le minimum sur place et très vite, ils chargent et ils évacuent en urgence en roulant à tombeau ouvert. Si vous voulez bien m'autoriser cette expression, pour aller jusqu'au trauma center le plus proche.
Voilà. D'accord. Quand vous arrivez, vous avez un pilote à terre avec un casque. Est-ce que le casque, c'est difficile à gérer un casque par rapport à un accident de la route, par exemple, où le blessé n'a pas de casque?
Alors, ben, en France, vous savez que maintenant, heureusement, 99%, à part quelques farfelus là, mais quand même, tout le monde met le casque sur la route depuis les scooters. Il y a encore les cyclistes qui n'en mettent pas. Mais donc, non, le casque, c'est quelque chose, à la limite, qui est au contraire hyper protecteur et très bien, et dont on a une façon, une procédure pour le retirer, si on a besoin de le retirer, pour accéder à la face du patient.
Est-ce que c'est quelque chose que vous retirez tout de suite ou vous devez attendre, savoir ce qui se passe et...
Alors, c'est pareil, si, là encore, tout dépend. Si la personne est consciente qu'elle nous parle, est-ce qu'il y a, on peut faire un retrait du casque avec précaution pour éviter de mobiliser la colonne cervicale et tout ça. Donc là, c'est une procédure qui est bien connue au niveau de, que ce soit des secouristes. Hein. Donc, les secouristes font ça de façon très correctement. Mais on le fait surtout si on doit accéder rapidement aux voies aériennes parce que la personne est inconsciente et que dans ce cas il va falloir l'intuber, la ventiler, donc intuber c'est-à-dire mettre un tuyau dans la trachée pour protéger les voies aériennes respiratoires pour pas qu'il y ait de sécrétion nasobuccale ou de sécrétion de l'estomac de risque de vomissement qui inonde les poumons et qui fait qu'en plus de la détresse il se noierait en envoyant des liquides si la personne est inconsciente elle n'a plus le réflexe de tout dès qu'on a un peu de liquide qui nous vient dans l'arrière-gorge, tout le monde se met à tousser comme des malades pour faire éviter que le liquide ne descende dans les poumons. Eh bien, quelqu'un d'inconscient perd ce réflexe protecteur de la toux. Et c'est pour ça que là, il faut rapidement soit le mettre en position latérale de sécurité, ça c'est la règle en tant que secouriste, et après en tant qu'urgentiste sur place, on place un tuyau dans la trachée qui va rendre étanche les voies aériennes et on va donc le faire respirer par ce tuyau qu'on a mis dans la trachée. Et là au moins on est tranquille que les sécrétions buccales qui continuent à être produites ne vont pas descendre dans les voies aériennes, donc dans le poumon, ou que s'il se met à vomir, qu'il y a un réflexe de vomissement, que ça ne vienne pas justement inonder les poumons.
D'accord. Je vais poser une question. Alors, excusez-moi, Jean, je vais poser une question un peu bête, mais c'est un peu l'idée, c'est de comprendre bien ce qui se passe. À partir du moment où vous arrivez, que vous voyez le pilote est inconscient, qu'il respire et que tout va bien, entre guillemets, vous pouvez que attendre qu'il se réveille en fin de compte, non ?
Non. Mais non. À partir du moment où la personne est inconsciente, c'est qu'il y a forcément une atteinte cérébrale puisqu'il n'a plus conscience. Ou il peut y avoir d'autres causes à la perte de connaissance, mais en tant que pilote, ça va être souvent effectivement du fait d'une commotion cérébrale qui peut aller à des degrés divers, plus ou moins importantes, malgré la présence du casque, d'un traumatisme.
Comme un boxeur du coup.
Et voilà, c'est le chaos du boxeur, hein. Donc, s'il est KO au point de ne plus répondre, là, ben, c'est que forcément le cerveau, il s'est mis en off, et donc c'est qu'il y a forcément une lésion, quelque chose qui se passe. À partir du moment où la personne donc ne peut plus nous expliquer ce qu'il ressent, nous, c'est protection maximum, d'autant plus que c'est consécutif à un traumatisme. Vous comprenez? Si c'est différent, si c'est quelqu'un qui est sur son canapé inconscient parce qu'il, pour une autre raison, que ce soit un malaise cardiaque, que ce soit une intoxication, que ce soit autre chose, là, il n'y a pas le risque de traumatisme des membres ou de la colonne cervicale. Mais sur un accident de moto, puisque là, on parle sur des circuits moto, l'inconscience du pilote signe qu'il y a une commotion cérébrale, une contusion cérébrale à des degrés plus ou moins sévères. Ça, c'est après les scanners qui nous diront si, quelles sont la sévérité des coups du choc cérébral qu'il y a eu, mais étant donné que le patient ne peut plus nous décrire et nous dire ce qu'il sent ou ne sent pas ou est-ce qu'il a mal, là c'est protection maximum dans la mobilisation et dans le transport du patient.
D'accord. Donc vous attendez pas à côté de lui qui se réveille en gros.
Ah ben surtout pas, parce que ça peut prendre des heures, voire des jours, hein. Si c'est un gros trauma crânien, il va peut-être rester dans le coma plusieurs jours.
D'accord. On va prendre l'exemple tout simple, puisque c'est arrivé récemment et c'est là d'où est partie un peu l'idée de faire ce podcast. C'est Dylan Ferrandis au Supercross de Houston. Et le temps a été extrêmement long. Ces 3 minutes ont été extrêmement pénibles parce que voir un pilote qui ne bouge pas comme ça sur le côté de la piste, c'est douloureux pour tout le monde. Et malgré ça, ils ont eu ce protocole dont vous parlez où on s'occupe, on voit si tout va bien et on s'en va. Et ça a un peu choqué beaucoup de gens. Vous comprenez ça, j'imagine?
J'ai effectivement vu la vidéo. Alors, c'est difficile de porter un jugement quand on n'est pas directement acteur, directement sur place, sur une vidéo là ou sur les 2 vidéos que j'ai pu voir. Mais quand même, voilà, moi un petit peu là, ce qui m'interpelle là-dessus, c'est effectivement tout de suite après la chute. En général, quand on se casse la gueule et qu'on est conscient, on n'a qu'une idée, c'est de se barrer du milieu de la piste pour pas se prendre une autre moto sur la tronche. Enfin, ça, c'est l'expérience qui parle. On n'allait pas rester sur le circuit allongé par terre à regarder le ciel, hein. Donc là, le fait qu'il ne bougeait pas du tout après sa chute me laisse à penser qu'il y a eu qu'il y a eu une inconscience. Est-ce qu'elle a duré les 3 minutes? Quand le premier secouriste s'est mis à la tête, et ça c'est très bien, immobilisation de la tête, il n'y a pas de problème, là c'était très bien fait. Le commissaire a agité le drapeau, tout ça pour éviter le suraccident, donc là-dessus il n'y a rien à redire. Donc il se met à la tête. Est-ce que là, première des choses, c'est qu'on pose des questions, vous m'entendez, répondez-moi, voilà, pour voir si effectivement, déjà vérifier s'il respire et s'il a repris conscience entre le moment où il est tombé et le moment où le premier secouriste se met à genoux à la tête et tient la tête, tient le casque, là, c'est tout à fait correct. Mais la première des choses, c'est effectivement de poser des questions. Donc là, soit il a repris conscience ou pas encore. Là, ça m'est difficile de juger puisque sur les vidéos, je ne peux pas le dire. Mais de toute façon, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'à partir du moment où on part dans l'hypothèse où il aurait repris connaissance et qu'il puisse dire non, j'ai pas mal nulle part ou quoi, je n'ai pas vu qu'il ait montré qu'il puisse bouger ses bras, bouger ses jambes. Et de toute façon, vu la cinétique de la chute et vu surtout le fait qu'il y a eu perte de connaissance, moi je ne l'aurais pas relevé pour le transporter assis sur une benne, même avec un collier cervical, même en faisant un maintien de tête par le secouriste qui restait derrière dans la benne du pick-up ou de je sais pas si c'était un pick-up ou ce que dans quoi ils l'ont transporté assis là. Moi j'aurais mis ce qu'on appelle alors avant on appelait ça les matelas coquilles. Donc là, il faut faire un relevage au moins à 4, éventuellement glisser une planche, un plan dur sous le truc pour être sûr de ne pas bouger sa colonne vertébrale tant qu'on n'a pas fait un scanner complet parce qu'on ne peut pas éliminer par un examen clinique succinct en bord de piste qu'il n'y ait pas une lésion vertébrale qui pourrait être instable. C'est-à-dire que même si la victime nous dit oui, je peux bouger, je sens bien mes doigts, je sens bien mes pieds, rien ne laisse penser qu'il n'y a pas une fracture vertébrale qui, au moment du relevage, va se déplacer et va venir cisailler la moelle épinière, et là, il se retrouve paralysé. Il y a des statistiques qui ont été faites qui montrent que on a à peu près entre 30% des lésions neurologiques qui surviennent pendant le transport et pendant la mobilisation, c'est-à-dire le relevage du véhicule pour le mettre sur le brancard, ensuite du brancard transfert à l'hôpital et transfert du brancard de l'hôpital sur la table de radiologie jusqu'à ce que, enfin du scanner, puisque maintenant on fait scanner ou IRM d'emblée sur des traumas comme ça importants, des polytraumas. Voilà, donc pour moi, je pense que là, quand même, du fait qu'il y a certainement eu une perte de connaissance, donc il n'était pas forcément à même de pouvoir répondre, et que même s'il pouvait répondre et qu'il ne sentait rien, on ne peut pas éliminer par simple examen clinique qu'il n'y ait pas une fracture qui risque d'être instable et qui, au cours du relevage, hein, ce qu'on appelle le relevage, c'est-à-dire la mise sur le brancard, et là encore plus transporté assis sur la benne, risque donc de bouger et de venir pincer la moelle épinière à ce moment-là. Donc
D'accord.
pour moi, c'est vrai que c'est un peu là, ils ont pris un énorme risque.
Alors encore une fois, je vais poser une question peut-être un peu idiote, mais il n'y a pas une barrière de langage à ce moment-là, quand le médecin demande, s'il demande en anglais comment ça va, du machin, le fait que Dylan soit français, il pourrait pas avoir un problème de langage à ce moment-là ou pas? C'est possible.
Alors, bien sûr que choqué et peut-être un peu, on va dire, encore pas très bien repris tous ses esprits, moi je pense qu'il y a quand même eu une perte de connaissance, certes peut-être brève, puisqu'après il était conscient, puisqu'il tenait assis dans la benne, hein, même si on lui tenait la tête, il avait repris connaissance. Mais donc, comme il y a eu une perte de connaissance brève, c'est vrai qu'au moment des premières questions, les réponses peuvent ne pas être très fiables. Et comme je le disais et que je le répète, ce n'est pas les réponses. Ce n'est pas même le fait de se rendre compte que la personne bouge ses doigts de pied, bouge ses doigts des mains, ça n'élimine pas la présence d'une fracture instable qui peut tout à fait se déplacer à la mobilisation et faire que la personne ait des séquelles neurologiques par le transport, par le relevage, ou pendant le transport. Et donc ça justifierait de le mettre dans un matelas coquille, ce qu'on appelait avant le matelas coquille. Maintenant, ils appellent ça matelas immobilisateur à dépression, qui est donc un matelas plein de billes de polystyrène dans le qu'on tasse de chaque côté du patient, on le met dedans et on tasse ça de chaque côté, on fait le vide et là, il est comme dans un plâtre de la tête aux pieds où il ne peut plus bouger. Et donc là, ça permet de le transporter jusqu'au scanner et on fait le scanner avant de le sortir de ce matelas à dépression.
D'accord.
Voilà. Pour être sûr qu'il n'y ait aucune fracture nulle part qui risque de mobiliser et d'entraîner des séquelles neurologiques avant de le libérer de ce sarcophage dans lequel on l'immobilise complètement.
D'accord. Donc j'ai encore une fois j'ai une question qui me trotte dans l'esprit là. Le fait qu'aux États-Unis quand même c'est le pays du procès, c'est le pays de tout le monde essaye de récupérer de l'argent à droite et à gauche. Dans ce domaine-là, pourquoi prendre autant de risques et pas justement attendre avant de déplacer quelqu'un? On pourrait penser que justement, comme il y a des risques de procès ou qu'il va se passer des trucs, les médecins pourraient se dire, attendez, attendez, on fait rien, on ne bouge pas et on essaye de vérifier que tout va bien avant de bouger le blessé.
Alors, c'est toujours le problème qu'il y a et que même on rencontre quelquefois chez nous aussi. C'est le problème de décider de l'arrêt de la course où le directeur de course dit non, non, ben, moi, non, non, je stoppe pas la course, continuez. Et où effectivement, pour les secouristes qui interviennent entre un relevage où on le met un peu à l'arrache assis comme ça sur un pick-up ou je sais pas si c'était un quad ou ce que c'était, et puis comme ça la piste est libérée en 2 minutes, et faire, comme je disais, un relevage en bonne et due forme, en prenant des précautions, en le mettant sur matelas dépression, faire la dépression, en charger le matelas sur un brancard, le mettre éventuellement enfin, sur un plan dur ou quoi. Alors, on fait ça en surcourse de moto. Par exemple, moi, j'ai fait aussi au Bol d'Or les relevages, là, on a une technique avec ce qui s'appelle, pour en sortir du bac à sable ou de bord de piste, avec ce qu'on appelle un brancard cuillère. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas utilisé, qui limite, qui permet d'extraire rapidement quelqu'un d'une zone à risque, d'une zone dangereuse, et de pouvoir le conditionner ensuite correctement et donc minimiser le risque de déplacement d'une fracture instable, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Alors après, ben, c'est vrai que si vous regardez bien, à partir du moment où les motos continuent à tourner, moi, ça m'est arrivé que j'étais à genoux à côté d'une victime et de me faire passer sur les bottes par une moto, quoi. Donc là aussi, les pilotes ne sont pas toujours sanctionnés, hein, de leur irrespect de la signalisation des commissaires. Et ça, c'est un gros, gros problème pour les secours sur piste.
D'accord. Au-delà de ça, je vais juste conclure. C'est que donc on est a priori, et oui, Dylan a perdu connaissance. Comment on revient de ça? Est-ce que j'ai entendu parler de, oui, 1 minute de perte de connaissance, c'est 1 semaine de repos. C'est quoi le protocole après la chute?
Non, il n'y a pas. Alors, il n'y a pas de règle. C'est effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a une règle systématique parce que, d'abord, il peut y avoir des pertes de connaissances. Comme je dis, il peut y avoir une petite hypotension qui peut entraîner une perte de connaissance. On ne peut pas comparer entre un traumatisme, entre ça. Vous prenez des gens, ne serait-ce qu'ils voient une seringue, ils tombent dans les pommes, ils sont inconscients. Et parce qu'ils ont vu une seringue alors qu'on les a pas touchés, et que la seringue c'était même pas pour eux. Bon, bref, il y en a pareil, il voit 3 gouttes de sang, il s'écroule, il tombe dans les pommes. Donc ils sont inconscients, ils sont incapables de vous répondre et ils sont inconscients. Donc si vous voulez, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire de protocole, 1 semaine de repos parce qu'il y a eu tant de minutes de perte de connaissance. Hein, donc voilà, après c'est l'examen neurologique, la reprise, tout ça, il y a tellement de critères que là, difficile de pouvoir donner comme ça un ordre de grandeur de repos, quoi.
D'accord. Est-ce que j'imagine que ça dépend aussi de vous, moi, n'importe qui. Je veux dire, ce qui est arrivé à Dylan, si ça arrive à moi, j'ai pas les mêmes séquelles. Enfin, tout le monde est différent dans ce cas-là.
Ben, chaque organisme est différent, chaque traumatisme est différent aussi, hein. Donc, moi, dans toutes mes années d'urgentiste, j'ai jamais vu 2 fois le même accident, 2 fois dans les mêmes circonstances. Donc, ça, c'est toute la problématique. Et la victime n'est jamais la même dans les mêmes trucs. Donc, c'est pour ça que on ne peut pas parler là-dessus que ça ne serait pas pareil si c'est vous, si c'est moi, si c'est là. Non, parce que la cinétique, parce que. Alors, il est évident que quelqu'un d'hyper entraîné, de musclé, de sportif, là, mais c'est très curieux. Des fois, vous savez, on descend d'un trottoir, on se fait bien mal, et puis des fois, on fait des sauts périlleux pas possibles avec des chutes, et puis on se relève et on repart et on continue et on n'a rien. Donc, c'est très curieux. Les séquelles traumatiques, sont difficiles à anticiper et à prévoir.
D'accord. Donc le retour de Dylan, en fin de compte, va se faire en fonction des examens qu'il va faire dans la semaine, j'imagine.
Ben, je pense que de toute façon, il va être revu, retesté, voir un petit peu par un médecin. Après, voilà, moi, je n'ai pas le dossier médical, là, je ne sais pas, donc je ne peux pas dire. Mais effectivement, il faut déjà, ben, lui, comment il se sent, et puis il faudra effectivement une reprise progressive, voir après comment il se sent petit à petit. Est-ce qu'il y a eu réellement perte de connaissance ou pas? J'ai aucun élément du dossier médical. Ce n'est pas sur des vidéos comme ça qu'on peut juger quelque chose, ni des trucs. Il faut voir, comme je vous dis, hein. Et bon, mais si là maintenant il va mieux, tant mieux, mais c'était une prise de risque énorme.
Les migraines, le mal de tête, etc., bon, quelques jours après la course, la chute, c'est normal, hein.
Mais ça prouve que le cerveau a quand même bougé. Si vous voulez, le cerveau, c'est quelque chose qui est très mou, qui est dans une boîte rigide. Et donc, quand vous avez une décélération aussi importante et des chocs, si vous voulez, il faut bien se rendre compte que le cerveau, lui, il continue à avancer à la vitesse qu'il avait de la moto, alors que la boîte crânienne, elle, s'est trouvée stoppée contre, ben, soit le sol, soit la bordure qui était sur le côté, ou peut-être contre la moto. Il faudrait revoir vraiment au ralenti la vidéo, voir où sur quoi a tapé le truc. Mais du moment qu'il y a un arrêt brutal comme ça, alors que le corps était lancé à une vitesse donnée, vous avez tous ce qu'on appelle les organes mous qui sont dans le le corps qui eux continuent à avancer et viennent s'écraser contre les parois. Donc là, par exemple, ben le, si par exemple c'est un choc frontal que la tête a buté face contre terre, par exemple, eh ben vous doutez bien que le cerveau, qui est quelque chose, une masse un peu gélatineuse, c'est venu s'écraser, s'aplatir contre la partie frontale de la boîte crânienne, et forcément que ça étire et ça secoue un peu les neurones et qu'il faut que tout ça se remette en place. Ça crée des micro-hématomes, des micro-œdèmes partout dans le cerveau. Et il faut que tout ça se résorbe, se remette en place, et donc ça peut expliquer tout à fait les migraines et d'autres petits, d'autres désordres plus ou moins importants selon l'intensité de ces hématomes et selon la cinétique, l'intensité du choc.
D'accord. Le fait que peut-être Dylan, alors évidemment, vous ne connaissez pas le dossier, bien sûr, mais si Dylan dit bah, « je vais rouler samedi à Auckland », ça vous paraît un peu tôt quand même ?
Je ne peux pas dire là-dessus. D'accord. Je ne sais pas comment il se sent. On n'a pas de… Voilà, donc là, sans avoir vu le dossier, les scanners cérébraux, enfin, ou les IRM, tout ça, non, on ne peut pas se prononcer.
Mais sans connaître tout ça, est-ce que c'est possible de revenir après 2 semaines ? Oui, il y a vraiment pas de règle en fonction de ça, quoi. Il y a pas.
Je pense qu'il faudrait quand même un minimum qu'il ait un examen neurologique complet, correct et tout, parce que remonter sur une moto, s'il a des réflexes atténués, s'il a des troubles de l'équilibre, ou s'il a ne serait-ce encore que des migraines ou quoi, voilà. Enfin, après là-dessus, c'est comme je vous dis, c'est. Il y a pas de règle, hein. Et puis après chacun fait comme il le sent et ce qu'il veut. Nous, on est là pour donner des conseils. Après, la personne est libre de faire ce qu'elle veut de sa personne, hein.
D'accord. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Jean. L'idée de ce podcast, c'était, encore une fois, je le répète, on n'était pas là pour juger quoi que ce soit. On était juste là pour donner, avoir votre avis et puis d'avoir surtout des infos que moi, je n'ai pas. Je voudrais juste dire un petit quelque chose. S'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui veulent devenir médecin urgentiste, comment il faut faire ?
C'est d'abord médecine, donc faire médecine générale. Et ensuite, choisir la spécialité de médecin urgentiste réanimateur. Enfin,
d'accord.
C'est
médecin urgentiste. Ah, OK. Et après, si en plus on est passionné de moto, donc là, il y a du boulot. Là.
Après, là, on sera sollicité par les fédérations pour faire le planton au bord du terrain, au bord de la piste. Voilà. C'est sympa. Moi, ça m'a permis de rouler avec des grands et de me rendre compte que j'étais un poireau. Quoi.
Voilà. Mais merci beaucoup, Jean. Je remercie Damien, votre fils, qui nous a mis en contact. Damien, bon, on fait du VTT ensemble virtuellement sur WhatsApp. Donc, on lui passe un petit coup et je vous souhaite une bonne soirée.
C'est avec plaisir.
À bientôt. Bye bye.
Au revoir.